Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous ouvrons une nouvelle période de l'année liturgique, celle de la Septuagésime. Le blanc est rentré dans nos chasubliers, sauf pour les fêtes, bien sûr. Mais c'est le violet qui remplace ce blanc. Et ce violet nous rappelle, bien sûr, cette pénitence. Non pas encore que ce soit vraiment pénitent, ce n'est pas le carré, mais pour anticiper, pour nous préparer à cette grande époque de 40 jours du carême, 3 semaines pour nous y préparer. Et l'apôtre saint Paul, dans l'épître aux Corinthiens, nous parle aujourd'hui du coureur, du stade, une image tout à fait familière à son époque, à Athènes, à Corinthe, à Rome, les stades. Cette image est toujours très actuelle, car il y a toujours des compétitions. Et il la met en relief, ou en opposition, le contraste, le paradoxe. Que dit-il ? Dans les courses humaines, tous courent. Ils espèrent avoir le prix, mais 99% sont déçus. Un seul remporte le prix. Un seul. La course que nous sommes amenés à entreprendre, c'est que le bon Dieu veut que tous nous soyons gagnants. Le prix du ciel, la récompense du ciel. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, il montre bien ce contraste entre la course ici-bas, tous espèrent, mais seul un, et il ne sait pas avant, qui aura la palme de la couronne, du mérite, de la gloire humaine, un seul. Il y aura bien un deuxième, un troisième, ils seront sur le podium, mais ils seront un peu plus bas les autres, alors que nous tous, nous sommes amenés à combattre, évidemment, et à remporter cette couronne impérissable, cette couronne immortelle. Et saint Paul dit bien aussi que même celui qui a les lauriers, lauriers d'un jour, car ils vont faner, on les mettra, bien sûr, plus tard, soit sur le sol pour que ça fasse de l'humus, ou alors au feu. Donc cette couronne, même si elle est bien méritée, elle est périssable, elle est mortelle. Et tous ces compétiteurs ici-bas se donnent tellement de mal. Ils se privent, ils se pèsent matin et soir, ils sont au gramme près. Et oui, parce que par exemple, si je fais du vélo et je suis trop lourd, bien, je vais écraser mes pneus. Bon, j'en sais rien, mais c'est une image. Donc il faut être léger, pour être le plus léger possible. Donc il y a beaucoup d'abstinence, beaucoup de mortification. Pourquoi ? Pour une couronne périssable. Bon, ce n'est pas forcément mal, mais saint Paul veut nous montrer que c'est caduque. Tous nos efforts ici-bas pour le corps humain, la gloire humaine, la gloire va passer un jour. Ce n'est pas pour l'éternité. Alors que si nous combattons pour l'éternité, alors c'est méritoire et la gloire sera pour l'éternité. Il dit ceci dans son épître aux Corinthiens, chapitre 1 aux Corinthiens, chapitre 9. Je cours, mais pas au hasard. Je sais comment donner mes coups. Et je cours en faisant le bien, assuré du résultat. Ailleurs, dans l'épître aux Philippiens, il dit ceci, je n'ai pas couru ni travaillé en vain. Donc mon travail n'a pas été inutile, mon travail n'a pas été vain. Je cours pour cette couronne de gloire, parce que je sais que le bon Dieu veut me donner ce denier dont il a parlé dans l'évangile en saint Matthieu. Et il a bien convenu, d'ailleurs, le bon Dieu, notre Seigneur, dans cette parabole, que le denier était la récompense. La récompense pour chacun de ceux qui viennent dans cette arène. Et il y a, effectivement, des heures. Soit on arrive à la première heure, soit la troisième, la sixième, et la onzième heure, midi moins une. Midi, c'est l'éternité, la fin de la vie, la mort. La mort, donc le début de la vie. Comme disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, « Je ne meurs pas, mais j'entre dans la vie, la vraie vie, la vie éternelle, celle qui ne passera jamais. » Et le bon Dieu nous a donné à chacun des grâces, pour que nous puissions obtenir cette couronne immortelle. Et peu importe le moment où nous sommes appelés. Peu importe. Certains sont appelés au berceau, d'autres durant le cours de leur vie, et certains in extremis. Pensez à ce bon larron, in extremis. On raconte aussi dans la vie du père Dupéra, le père Dupéra qui était un père du Sacré-Cœur, donc au XXe siècle, début XXe siècle, qui est venu missionner en Papouasie, avec Monseigneur de Boismenu. Monseigneur Alain de Boismenu, une grande figure, 50 ans évêque chez les Papous. Je raconte cette histoire parce qu'elle est remarquable. Donc le père Dupéra, jeune prêtre, arrive avec un vieux curé, enfin le curé était déjà là depuis longtemps, et le père Dupéra, donc, il marche dans la brousse, dans la savane, et le père Dupéra prend un chemin différent de celui de son curé. Oh, je dis chemin, ce n'est pas un chemin, il n'y a pas de chemin. Et le père Dupéra va, il taille avec son bâton une espèce de il se ferait un chemin, forcément. Et le curé tempête après lui en disant « Tu vas te casser le cou ». Et il sort tous les mots de son vocabulaire. Ce n'était pas un vocabulaire classique. Il faut le cœur à lui pour dire au père Dupéra « Rebrousse chemin ». Et le père Dupéra continue son chemin. Le curé n'a pas le choix. Il faut qu'il le suive. Parce que le père Dupéra ne connaît pas la route. Il n'y a pas de route. Il ne connaît pas le pays. Il vient d'arriver, presque. Donc le curé le suit. Et voilà qu'il s'arrive dans une clairière. Dans la clairière, il y avait un vieux qui avait fait une espèce de petite hutte pour s'abriter du soleil ou de la pluie. Et le vieux lui dit « J'étais chassé de ma tribu, je vais mourir, je vais mourir. Mais je savais que toi le père, je te verrai avant la mort. » Ils ont fait un catéchisme rapide, parce que le pauvre vieux était mourant. Et donc la peuplade l'avait chassé de la tribu parce que, un petit peu, je crois, comme avec les bêtes mourantes, les bêtes malades, ne meurent pas avec le clan. Hein. Donc, soit la bête malade s'exclut elle-même, soit elle est chassée. C'est un peu pareil avec ces païens. Les païens. Et ce vieux savait qu'il verrait le salut avant de mourir. Donc, un catéchisme rapide. Et les pères l'ont baptisé. Et il est mort. Vous voyez ? Dernière heure. Mais il savait que Dieu existait. Et par conséquent, le bon Dieu leur a amené deux prêtres. Un malgré lui, les deux malgré eux d'ailleurs, parce que le père du père ne savait pas où il allait, évidemment. Mais le curé savait où il allait aussi. Il savait qu'il irait au précipice, et non. Un précipice de charité, un précipice d'éternité. Le bon Dieu, quand une âme cherche la vérité, il lui amène, il leur amène à ses âmes, le bon Dieu, à travers un missionnaire, un prêtre, une personne qui connaît déjà le bon Dieu et qui peut le baptiser, donc donner l'éternité in extremis, la 11e heure. 11e heure, un peu plus. Comme c'est beau. Le bon Dieu est fidèle. Et pourquoi, voyez-vous, pourquoi cette âme, ce vieillard, avait eu la chance, plus que la chance, la grâce, d'avoir la vie éternelle ? Certainement par une bonne vie humaine. Il avait cherché le bon Dieu dans sa vie. Il ne le connaissait pas vraiment, mais il respectait la loi naturelle. Faire le bien, éviter le mal. Et le bon Dieu l'a éclairé. Il savait qu'il verrait le salut. Un peu comme la fête de demain, Siméon, le vieillard Siméon, qui étant âgé, je crois qu'il a 80 ans, avec la prophétesse Anne, qui a 84 ans, dans le temple, il priait Dieu jour et nuit. Et Siméon, qui prend l'enfant Jésus dans ses bras, que dit-il à Notre-Dame ? Je savais que je ne mourrais pas avant d'avoir vu le salut. Le salut, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et après cela, il chante ce cantique que nous chantons le soir accompli, « Nunc dimittis, servum tuum domine ». Maintenant, Seigneur, vous pouvez laisser aller votre serviteur en paix, parce que j'ai vu le salut. Je l'ai vu, je l'ai touché, je l'ai embrassé, je l'ai pris sur moi. Il m'a sauvé, notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc voyez ces âmes qui bataillent, qui luttent ici-bas pour la recherche du bon Dieu. Le bon Dieu est fidèle. Le bon Dieu sait le bien que nous pouvons faire. Et il est plein de miséricorde pour ces âmes qui le cherchent avec foi, avec persévérance. Quel encouragement. Prions pour ceux qui ne sont pas encore dans la voie du salut. Prions pour toutes ces âmes qui ne savent pas, qui ne connaissent pas notre Seigneur Jésus-Christ, pour que le bon Dieu leur envoie des lumières. Lumières qui éclairent les nations. Les nations, c'est les païens, les gentils. Gentes, naciones, c'est les païens. Notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir missionné dans le peuple hébreu, a choisi des apôtres qui ont commencé à Jérusalem leur mission. Mais puisque Jérusalem n'a pas reçu massivement l'évangélisation, les apôtres se sont tournés, disent-ils, vers les païens. Et nous avons été évangélisés. Et l'Église continue cette évangélisation. Saint Thomas d'Aquin nous dit que pour ce combat spirituel ici-bas, il faut être fort, patient et réservé. Fort dans son combat contre le mal, de la faute, la force pour lutter contre les tentations, pour se déraciner du péché, patient dans l'épreuve. Oh, Dieu sait bien combien nous pouvons être exercés sur cette vertu de patience que parfois nous n'avons pas. Mais la patience fait partie justement de la vertu et plus suréminemment du don de force. La patience dans les épreuves. Pensez à ce quatrième mystère douloureux. La patience dans les épreuves, c'est le fruit de ce mystère. Et puis aussi réservé en servant Dieu contre le mal de la tentation. Réserver, c'est-à-dire tout près du bon Dieu. Avoir cette crainte filiale d'offenser le bon Dieu. Et aussi, l'homme est doux en pardonnant. Il se considère comme un serviteur inutile. Selon la parole de Jésus dans l'Évangile, quand vous aurez tout fait, faites tout ce que vous y commandez, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que notre devoir. Que faut-il entendre par ce mot inutile ? Saint Jean Chrysostome nous dit ceci. Il faut comprendre qu'il ne faut pas avoir de la vaine gloire dans nos bonnes actions, afin que notre humilité croisse. Nous faisons le bien. De gracias, c'est une bonne chose de faire le bien. Mais il ne faut pas s'attribuer à soi-même le bien qu'on peut faire. Il faut le rendre au bon Dieu. Et ainsi, on reste le cœur léger, parce qu'on ne s'attribue pas à soi-même la gloire, le mérite, le bienfait qu'on a pu faire ici-bas. Donc, serviteur inutile. Bien sûr, ce n'est pas ne rien faire, serviteur inutile. Et je voudrais vous lire, en terminant, un petit texte du père Calmel, qui parle justement de ce serviteur inutile. Il dit ceci. « Vous n'êtes qu'un pauvre instrument, non interchangeable, certes, mais aussi non indispensable. » Un serviteur inutile. Si vous désirez que le serviteur inutile ne devienne pas un messager nuisible, comment ne désirez-vous pas être saisi par l'Esprit du Christ, transformé par lui, agi par lui? Souvenez-vous que l'apostolat des douze a commencé dans le monde seulement après cette retraite au Cénacle, en compagnie de Marie, mère de Jésus, et lorsque descendit sur eux la plénitude de l'Esprit Saint. Alors seulement, ils devinrent capables de dire, comme il le faut, le nom de Jésus, d'enseigner aux hommes infailliblement tout ce que Jésus leur avait d'abord enseigné. Donc les apôtres n'ont pas été des paresseux, mais ils ont agi pour notre Seigneur Jésus-Christ dans la dépendance du Saint-Esprit qu'ils avaient reçu par l'entremise de Notre-Dame. Au Cénacle, il y avait la Vierge Marie. Marie qui déjà est revêtue entièrement, comblée, pleine de grâce, immaculée dans sa conception. Donc le Saint-Esprit l'a déjà visitée à sa conception, mais pas les apôtres. Donc les apôtres avaient besoin de la Vierge Marie pour qu'il soit hanté, greffé dans le Saint-Esprit, qu'il le reçoive. Et il en parçut tout seul, mais par Notre-Dame, qui était avec eux pour prier. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.